C'est un grand plaisir et honneur pour moi que d'introduire ce colloque organisé par l'Université de Caen et la Maison de la Recherche en Sciences Humaines. Ce colloque, La Recherche Construire Demain, qui nous réunit aujourd'hui, fait suite, comme Monsieur le Président vient de le mentionner, fait suite à un colloque historique organisé en 1956 sous l'impulsion de Pierre Mendès-France, colloque qui a changé le paysage de la recherche française pendant plusieurs décennies. Je vous rassure, Monsieur le Président, il n'y a pas que les Normands qui ignorent ce colloque. Bon nombre de chercheurs, d'enseignants-chercheurs de la communauté dans son ensemble ne le connaissent pas, y compris, je dois l'avouer moi-même. Ce colloque de Caen a donné lieu, vous l'avez rappelé à l'époque, à une douzaine de résolutions qui seront très certainement encore évoquées ce matin. Parmi celles-ci, signalons à partir de cette période une implication, je dirais, de plus en plus forte de l'État dans la politique de la recherche scientifique avec la création, dès 1958, d'un comité interministériel de la recherche scientifique et technique et d'un comité consultatif de la recherche scientifique et technique, ancêtre en quelque sorte de nos DGRST, transformé ensuite en DGRI et plus récemment aussi de notre Conseil stratégique de recherche. Il fut proposé à l'époque un plan décennal très ambitieux d'expansion de la recherche et de l'enseignement scientifique, tant au niveau de l'enseignement secondaire que de l'enseignement supérieur, avec un renforcement des liens entre les deux, ainsi qu'entre facultés et grandes écoles. Des réformes profondes de l'administration de l'enseignement et de la recherche furent alors envisagées, y compris l'octroi d'une plus large autonomie aux universités. Grâce à la création en 1959, entre autres, d'un fonds de développement de la recherche scientifique et technique, prédécesseur en quelque sorte de notre ANR, et des programmes d'investissement d'avenir, des subventions significatives furent accordées pour améliorer les infrastructures et les équipements, faciliter le recrutement et revaloriser les carrières des personnels de recherche et des chercheurs, sans parler pour autant, à mon avis, à juste titre à l'époque, de fonctionnarisation du statut de chercheur. C'est également lors de ce colloque que fut évoquée la nécessité de réformer les études et la recherche médicale, comme vous l'avez mentionné, Monsieur le Président. De soutenir la recherche appliquée par de nouveaux mécanismes fiscaux et d'accroître la recherche agronomique. Nous entrions ainsi en France, mais aussi d'ailleurs à l'étranger à la même époque, dans une période que certains ont appelée l'âge d'or ou encore la renaissance de la recherche scientifique avec de nombreuses actions concrètes entre 1956 et 1966 en France en termes de création et de renforcement de nos instituts de recherche grâce à une hausse importante des moyens. C'est durant cette période que furent créés les centres hospitalo-universitaires, CHU, le Centre national d'études spatiales, le CNES, l'INSERM. Nous pouvons également nous demander si des actions plus récentes, parfois controversées, voire critiquées, ne s'inscrivent pas aussi dans la prolongation d'idées déjà évoquées lors de ce fameux colloque de Caen. Mentionnons par exemple le statut de fonctionnaire des personnels de recherche inscrit dans la loi Chevènement de 1982, le crédit impôt recherche en 1983 et les pôles de compétitivité, la loi de 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités, la fameuse LRU, marquant un tournant en termes d'autonomie des universités et d'incitation au renforcement des liens entre formation, recherche et innovation. Et enfin, depuis 2010, les programmes d'investissement d'avenir. Ainsi, ce colloque de Caen n'est-il pas à l'origine d'une politique de recherche orientée plutôt vers une programmation et à viser avant tout de valorisation économique? Néanmoins, nous ne pouvons pas nier les succès scientifiques spectaculaires en France qui se sont accumulés à partir de la fin des années 50 avec des découvertes d'envergure dans le domaine de la physique, de la chimie, de la biologie cellulaire, de l'immunologie et de la génétique. Dans le domaine médical que je connais mieux, de très nombreuses applications sont issues de ces découvertes, comme les progrès de l'imagerie médicale, la transplantation d'organes, la thérapie génique, la thérapie cellulaire. Citons par exemple la découverte remarquable du système HLA par Jean Dausset en 1958, ou encore les travaux de Jacques Monod, de François Jacob et d'André Lvoff sur la régulation génétique. Au lendemain de ce colloque de Caen, signalons aussi le lancement de très grands programmes dans le domaine de l'aéronautique et de l'espace et l'avènement de l'air, des satellites et de l'électronique réalisable grâce aux immenses progrès scientifiques, notamment en physique. Vous l'avez déjà dit, monsieur le Président, ne devons-nous pas remarquer que depuis 1956, plus de 15 prix Nobel, 7 en physique, 6 en physiologie et médecine, 3 en chimie, ont été attribués à des chercheurs en France après plus de 30 années sans Nobel français, depuis celui de Frédéric et Irène Joliot-Curie en 1935. Cependant, la fin des années 70 et le début des années 80 auront été marqués par un frein de ces années glorieuses de la recherche, conséquence probable d'un contexte économique et social défavorable en France, mais aussi à l'étranger. Lors de la préparation de ce discours, les sujets débattus lors du colloque de Caen n'ont pas été sans me rappeler les débats des assises de l'enseignement supérieur et de la recherche organisées en 2012 par notre ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Madame Geneviève Fioraso, à la demande du président de la République et que j'ai eu l'honneur de présider aux côtés de Vincent Berger, rapporteur de ces assises à l'époque. Beaucoup de sujets débattus lors de ces assises présentaient bon nombre de similitudes avec les thèmes discutés lors du colloque de Caen, même si, bien sûr, l'évolution de notre société, des sciences et des technologies soulève d'autres enjeux, d'autres défis. Les débats et consultations de ces assises 2012 ont abouti, vous le savez, à 131 propositions ciblées sur l'amélioration de la réussite des étudiants, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ces propositions ont été à l'origine d'une nouvelle loi, la loi ESR du 22 juillet 2013, comportant seulement, et nous pouvons le regretter, 21 mesures, mais qui, là encore, ne sont pas, pour certaines d'entre elles, sans nous rappeler les résolutions du colloque de Caen. Citons par exemple la réforme visant à établir une meilleure continuité entre enseignement secondaire et enseignement supérieur, la reconnaissance du doctorat au niveau de la haute fonction publique et du secteur privé. Citons aussi des dispositions certes plus modestes en termes de gouvernance des universités visant à promouvoir une meilleure coordination territoriale et un renforcement des liens entre établissements de recherche et universités, avec, entre autres, la création des COMU. En termes de recherche, les mesures concernent, entre autres, l'élaboration d'un agenda scientifique France-Europe 2020, en harmonie avec le programme Horizon 2020, par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche elle-même. Et puis, et puis la création d'un conseil stratégique de recherche, le CSR, chargé d'élaborer une stratégie nationale de recherche révisable tous les 5 ans. Cette stratégie nationale de la recherche publiée l'an passé a été élaborée autour de 10 grands défis scientifiques, techniques, environnementaux et sociétaux. Changement climatique, énergie, renouveau industriel, santé et bien-être, sécurité alimentaire et défis démographiques, transport et système urbain durable, formation et communication à l'ère du numérique, société innovante, intégratrice et adaptative, ambition spatiale et enfin liberté et sécurité des citoyens en Europe. Les orientations de recherche mentionnées dans cette stratégie sont toutes volontairement à fort impact en termes de valorisation. Elles nécessitent des interfaces et des actions pluridisciplinaires coordonnées allant parfois bien au-delà de la programmation de l'ANR et des objectifs établis par les organismes de recherche. Si je prends l'exemple du défi que je connais le mieux, celui vie et santé, 2 programmes d'action ont été proposés dans le cadre de politiques publiques, en fait déjà engagées par l'État français avant même que le Conseil stratégique de recherche ne s'implique réellement dans la réflexion. Il s'agit du programme de biologie des systèmes annoncé par le président de la République en fait dès le janvier 2014 avec 2 actions principales visant à structurer une communauté scientifique multidisciplinaire sur la biologie des systèmes tout en lançant la création de centres multidisciplinaires pour la biologie des systèmes. Le second programme concerne la recherche translationnelle allant du laboratoire au patient, une recherche hospitalo-universitaire déjà incluse en fait dans le programme écosystème d'excellence du nouveau programme d'investissement d'avenir. Ces 2 programmes peu originaux sont certes extrêmement importants, ils présentent des forces mais aussi des faiblesses. Ce sont des programmes tous 2 très coûteux, hautement compétitifs, soumis à des règles strictes en matière d'éthique et laissant en fait peu de place à la créativité et à une recherche fondamentale originale. Ces programmes sont très ciblés d'ailleurs sur le vivant et sur certaines pathologies humaines. N'abandonnons pas d'autres recherches en physiologie animale et végétale et d'autres approches expérimentales qui pourraient être à l'origine de nouveaux modèles, de nouveaux biomarqueurs, de nouvelles technologies, si nous voulons, dans ce domaine, réellement atteindre l'objectif essentiel d'évoluer vers une médecine prédictive et personnalisée. Maintenant, souplesse et réactivité, ce sont 2 éléments clés du développement de découvertes scientifiques. Bref, ne transformons surtout pas les chercheurs en prestataires, en quelque sorte, au service de l'État et de la croissance économique du pays. Les risques d'échec, de compétition abusive, de dérive, y compris de publications non confirmées, voire le développement de falsifications scientifiques, comme nous le voyons déjà dans certains pays, sont loin d'être négligeables. Maintenant, une recherche fondamentale de très haut niveau. Rappelons-nous que la recherche fondamentale est une condition essentielle à l'innovation. Rappelons-nous aussi quels en sont les grands principes. Acquérir de nouvelles connaissances scientifiques sur la base de concepts nouveaux, d'hypothèses théoriques, de données expérimentales et d'évidences scientifiques irréfutables. Gardons à l'esprit que les grandes découvertes scientifiques issues de la recherche fondamentale sont imprévisibles. Elles ne peuvent donc être systématiquement encadrées dans des programmes à finalité économique dont les retombées seraient décidées a priori. Vous l'avez compris, et Serge Haroche nous le redira, j'en suis sûre, cet après-midi, l'un des grands enjeux de la recherche en 2016, c'est finalement de favoriser cette recherche fondamentale libre et foisonnante, non programmée car non programmable. Les grands enjeux aujourd'hui, c'est aussi d'offrir aux chercheurs des moyens récurrents, adaptés, souples en termes de ressources humaines, d'encadrement et de logistique. Et c'est aussi de lutter contre la précarité des jeunes chercheurs et du personnel de recherche. Il nous faut encourager à la fois l'indépendance scientifique et l'interdisciplinarité dans le cadre de partenariats internationaux. Bref, les grands enjeux de la recherche restent aujourd'hui les forces vives et moyens financiers, l'attractivité internationale et la gestion de la recherche. Privilégions systématiquement une approche ascendante dans l'élaboration de toute stratégie scientifique de la recherche, sans oublier le dialogue et les échanges entre chercheurs et sociétés civiles. La stratégie nationale de la recherche formulée en 2015 est récente. Il nous faut la préciser, la compléter. Des questions et de nombreuses questions restent en suspens. Parmi celles-ci, faut-il privilégier certains champs nationaux afin d'éviter une dispersion des efforts et renforcer la dimension internationale impliquant des réseaux d'acteurs et l'usage d'outils nouveaux sur des enjeux mondiaux. La coopération en sciences et en recherche à l'international doit être un objectif majeur de l'action diplomatique française. Comment mettre en œuvre une stratégie nationale ambitieuse sans augmentation conséquente de budget de la recherche dans un contexte économique contraint ? Ne faut-il pas imaginer de nouveaux mécanismes de financement innovants, comme nous l'avons su le faire dans d'autres domaines ? Nous sommes clairement dans une situation bien différente de celle de 1956. Pourtant, la dynamique de notre économie, l'avenir de notre démocratie, notre bien-être dépendent certes de la réponse aux grands enjeux de ce siècle, mais cette réponse repose en premier lieu sur la qualité de notre enseignement supérieur et de notre recherche. Pour conclure, je dirais, n'oublions surtout pas la philosophie inhérente à la recherche scientifique. Elle repose sur la confiance dans la possibilité de connaître toujours mieux le monde dans lequel nous vivons, de le connaître pour le plaisir, de la curiosité et de l'émerveillement, et de le connaître pour agir mieux en utilisant notre savoir de la façon la plus rationnelle possible afin d'optimiser la réponse de la société dans son ensemble aux défis qui lui sont posés. J'espère profondément que les débats aujourd'hui seront riches, aussi riches que ceux de 1956, et qu'ils marqueront l'histoire de la recherche scientifique française de demain. Je vous remercie.